Scrivens O, Scrivens A.
Cette émission se propose d'explorer les mystères de la création littéraire et poétique. Formé à Eloquentia, programme dédié à l'éloquence, Tristan Trève, aussi bien à l'aise en poésie et slam qu'en art oratoire, est notre invité. Bonjour Tristan, comment ça va aujourd'hui ?
Bien, ça va très bien, très très bien. Et toi-même, comment ça va ?
Écoute, ça va bien, je suis contente de t'interviewer. Et puis, donner suite à cette première rencontre au Parvis des Arts, où d'ailleurs tu suis des cours d'art oratoire. C'est ton métier, je crois. Et c'est ce qui m'a intéressée chez toi, après avoir interviewé des slameurs, slameuses, JP, PAX, ou Téménique aussi, c'est aussi son blaze, comme il dit, et Kamikaze. Le passage de l'écriture à l'oralité, c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus, que tu m'éclaires en tant que poète, parce que tu es poète, que tu slames, mais aussi tu écris des discours et tu formes des étudiants lycéens. Tu interviens aussi en entreprise ?
Alors pas encore en entreprise, mais je fais tout ce qui est lycéen, collégien, j'agis aussi sur les centres sociaux et dans les quartiers, et peut-être là bientôt les prisons. Donc ça en parallèle avec la direction des ATF de la prison de Luynes. Donc on va voir si c'est quelque chose de réalisable en tout cas. Ouais.
Si j'en reviens à JP et Kamikaze, surtout JP, il écrit vraiment dans l'optique de dire ses textes. Et je me demandais si c'était ton cas, ou tout au moins parfois.
Alors, j'écris pas tout le temps pour dire mes textes, mais je dis tout le temps mes textes pour écrire. C'est-à-dire que j'aime bien, en fait, répéter mon texte écrit à l'oral, de manière à savoir si, dans la tête, quand on le lit, il est mélodique. Ça veut dire que je prête une grande attention aux assonances, aux allitérations, à la rythmique du texte, à la mélodie de ce que j'écris, et ça, c'est quelque chose que je fais depuis que... Je fais des rédactions en français depuis que j'ai 15 ans. Voilà, je réfléchissais au correcteur, au professeur. Je me posais la question de la mélodie qu'il aurait dans sa tête quand il lirait mon texte. Et généralement, je commençais mes textes en prose sur des rédactions d'invention. Et à la fin, ça finissait en poésie, ça finissait en rime. Et moi, ça me donnait plutôt bonne note. Mais du coup, voilà, en fait, le discours, lui, il a vraiment une vocation d'oralité. Donc après l'écriture, il y a vraiment une période qu'on appelle la période de mise en voix. Et cette période-là, en fait, elle est aussi importante que l'écriture, voire parfois même plus, parce qu'elle met en relief l'essence du texte. Un texte, il peut être extrêmement bien écrit, s'il n'est pas bien mis en voix, il ne va pas avoir le relief et l'impact qu'il est censé avoir. Notamment, si par exemple on déclame un texte de Victor Hugo, il va falloir s'imprégner du coup... de l'époque et du moment, de l'état d'esprit dans lequel Victor Hugo était à ce moment-là, pour pouvoir après vraiment le ressentir et pouvoir l'exprimer correctement. Donc moi ce que je fais vraiment, c'est que ça dépend. Si j'écris un discours, c'est vraiment pour l'oralité. Sinon, la plupart du temps, je prête attention quand même à la mélodie, mais c'est parfois que de l'écriture pour de l'écriture.
Tu dis que tu écris avec ta voix, mais est-ce que tu écris avec ton corps ? Et quelle partie de ton corps tu actionnes ? Parce que comme j'ai pu le noter hier lorsque j'ai assisté à ce cours d'art oratoire, le corps est vraiment un endroit où les choses se passent. Et est-ce que toi, tu écris avec ce corps, avec ce véhicule ?
Alors, je n'écris pas avec le véhicule. Par contre, je mets en voix avec mon corps. C'est-à-dire que le corps, il va marquer des points d'ancrage kinesthésiques à des moments clés du texte qui vont à la fois me permettre de mémoriser mon texte, mais à la fois aussi de créer des points de pression, de créer des tensions et créer de la tension à certains moments. Donc moi, je vais dire que le corps, je l'utilise plus dans la mise en voix que dans l'écriture. Dans l'écriture, juste je répète à voix haute mon texte pour voir s'il sonne bien, s'il est mélodieux, mais je ne vais pas utiliser beaucoup le corps dans l'écriture en tout cas.
En fonction de ce qui va se passer lorsque tu dis un texte ou tu dis un discours, selon l'effet que ce texte provoque sur ton public, sur les spectateurs, tu vas être amené à le faire évoluer.
Oui, complètement. Alors, normalement, ce que je fais évoluer en premier lieu, ça va être la manière de le déclamer. Parce que parfois, voilà, il va y avoir des subtilités, en fait, que je vais... Je vais avoir des idées ou je vais avoir une manière de le déclamer qui va évoluer. Et surtout sur les retours, en fait, qu'on va me faire. Il y a des gens parfois qui vont me faire un petit retour sur la manière dont je l'ai déclamé ou des petites observations. Et c'est vraiment avec ça que le discours va évoluer. Après, le discours, il évolue rarement parce que généralement, je ne le déclame pas tant que ça. C'est-à-dire que je vais le déclamer peut-être 2 ou 3 fois et après, je vais passer à autre chose, généralement.
C'est-à-dire passer à autre chose.
Bah, je vais passer soit sur un autre projet, soit sur un autre texte, soit... voilà, c'est-à-dire que le texte, il va exister, il va rester, mais moi, derrière, mon expérience, elle se poursuit, et mon état d'esprit se poursuit avec cette expérience-là, et parfois, les textes, voilà, quand je regarde les textes que j'écris l'année dernière ou il y a 2 ans, je suis plus dans le même état d'esprit, et du coup, voilà, ce texte-là va avoir une vocation à rester un certain temps, et puis au final, je vais plus forcément le remettre à l'oral par la suite, quoi. Le faire évoluer.
Et un texte a une durée de vie de combien de temps?
Ça dépend. Il y a des textes que j'ai écrits, notamment un qui s'appelle Amour amorphe, que j'ai écrit il y a 3 ans, 3-4 ans. C'est un texte, voilà, que quand je l'ai écrit, j'étais extrêmement content de ce qu'il dégageait. Et aujourd'hui encore, voilà, c'est un texte que je remets, que je remanie, parce que c'est... Voilà, c'est un texte qui est important pour moi, et je suis assez content de celui-ci. Et après, il y a des textes, voilà, que j'ai écrits où je suis un peu moins attaché. Je pense que c'est une question d'affection, en fait. Voilà, et on a des affections particulières pour certaines œuvres que l'on produit, certaines qu'on veut garder, d'autres qu'on souhaite voir, voilà, partir petit à petit.
Et ces textes sont voués à faire partie d'un recueil un jour ou l'autre ou non?
Alors oui, le but, ce serait quand même de faire un recueil à terme. J'aimerais bien pouvoir me faire éditer à terme et pouvoir aussi trouver une résidence d'écriture. Ça, ce serait vraiment quelque chose qui me plairait énormément, de pouvoir à la fois prendre le temps pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'écrire et de partager mes écrits dans un lieu... Dans un lieu inspirant, avec des personnes inspirantes, de pouvoir échanger avec d'autres artistes. Ça, ouais, sur la vision à long terme, peut-être d'ici l'année prochaine, ce serait quelque chose qui me plairait bien, ouais.
Mais des poèmes, des slams, des discours, est-ce qu'on peut envisager un recueil de discours?
Alors, je pense qu'on peut envisager un recueil de tout et de n'importe quoi, parce que, enfin, genre, je pense que l'art, il n'a pas forcément de limite, et il y a des ouvrages que je vois où je me dis, ah, bah, bon, voilà, bah, je ne l'aurais jamais fait, mais en fait, c'est complètement possible, hein. Donc oui, on peut imaginer un recueil de discours, et je crois qu'il y a des slameurs qui ont fait des recueils de slam. Donc oui, en soi, je pense qu'il n'y a aucun souci à avoir un recueil de discours. Après, c'est peut-être parce que, pour moi, les discours, ils ont vraiment une vocation d'oralité. Et quand j'écris une poésie... Parfois, mon discours est une poésie, dans ce cas-là, je vais pouvoir le mettre dans le recueil, mais si c'est vraiment à volonté, de juste à volonté orale, de discourir, de créer, de co-créer avec le public, je pense que je vais pas pouvoir, ouais, le mettre à l'écrit juste comme ça, parce qu'il manquera la mise en voix, à mon sens.
Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est un discours?
Alors, un discours, pour moi, c'est une manière d'exprimer un message construit, subtil et réfléchi à un auditoire, peu importe l'auditoire, mais je pense que ce qui a, ce qui, comment je définirais le discours, ce serait vraiment la réflexion et l'oralité. Au juste quand on écrit un texte, l'oralité, elle va se faire dans l'esprit du lecteur, c'est-à-dire que lui-même va le mettre en mots dans sa tête, et va le mettre en image, va créer un univers relatif à ce qu'il lit, alors que dans le discours, c'est l'orateur qui lui est prophète de sa propre voix et qui va permettre de véhiculer non seulement avec ses mots, mais aussi avec son intonation, ses gestes et son âme. Voilà, il va créer un moment en fait, ce discours. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça un discours. C'est un moment que l'on partage et un message que l'on partage et qui est réfléchi, qui est travaillé, mais qui est à la fois avec l'instant du moment, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez éphémère, d'assez précieux aussi avec le discours que j'aime bien.
Est-ce qu'un discours est fait pour convaincre?
On va dire qu'il y a un objectif à chaque prise de parole, il y a un objectif. Est-ce que la prise de parole a forcément l'objectif de convaincre? Pas forcément. Mais il a quand même, je pense, l'objectif de toucher, d'une manière ou d'une autre, de susciter une émotion. Par émotion, j'entends mettre en mouvement, de mettre en mouvement quelque chose chez les autres, je dirais. De convaincre, pas forcément. C'est le cas, par exemple, si on parle des concours, en effet, des concours d'Eloquentia, ou peut-être même de l'Académie des lettres, enfin, de l'Académie de la langue française, où il y a souvent des questions qui sont formulées. Donc dans ce cas-là, oui, il y a vocation à convaincre, il faut trouver des arguments. Mais est-ce qu'un discours, il doit forcément convaincre? Ça dépend du contexte. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il doit juste faire bouger quelque chose à l'intérieur de l'esprit du public, du destinataire.
Parce que pour beaucoup de gens, le discours, c'est un discours politique. La plupart du temps, il y a cette connotation-là.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que y a le discours politique, mais il n'y a pas que. Toute notre vie, on passe notre vie à discourir, au final, plus ou moins. Je veux dire, voilà. Il y a le discours politique, évidemment. Après, il y a le discours poétique aussi. Il y a diverses, en fait, chaque prise de parole est plus ou moins un discours. Moi, je pense pas forcément que le discours il soit forcément emprisonné dans la case politique. Le fait qu'on puisse beaucoup parler de discours politique quand on parle de discours, c'est parce que ils ont des codes et un entraînement qui est quand même assez prononcé dans tout ce qui est code oratoire, dans la manière de s'exprimer, la manière de détourner les questions, la manière de jouer avec les mots, la manière de détourner l'attention, la manière de convaincre. Ils sont des maîtres du débat, des maîtres de la persuasion, de la rhétorique. Ce sont des. Ouais, y a énormément de qualités qu'on peut reconnaître dans un discours politique et qu'on va aller essayer d'enseigner aussi en art oratoire et en éloquence, quoi. Donc oui, forcément, le discours politique en fait une grande partie, mais c'est pas la totalité.
Et alors, comment on écrit un discours?
Alors, comment on écrit un discours? Déjà, il faut une ligne directrice. Alors, je pense que chacun en a notre manière d'écrire le discours. Certains, ils ont un sujet et ils vont écrire toutes les idées qui vont leur passer par la tête. Des mots, des idées, des. Et puis après, ils vont essayer d'organiser tout ça. Moi, personnellement, quand j'ai un discours à écrire, j'ai un grand vide qui arrive. Il y a un grand vide. Et puis je pense. Je commence à penser. J'essaie de mettre en relief le sujet. Et puis après, je fais ce que beaucoup de gens font. Je parle tout seul. Je parle tout seul et j'essaye de trouver. Voilà, je me pose des questions. Mais alors si ça, mais alors le temps, mais du coup la temporalité, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ci et qu'est-ce que c'est que ça? Donc je suis un peu le fou dans ma maison. Je fais les 100 pas, je tourne en rond, etc. Et puis je cherche des points clés. Je cherche des points de pression. Je cherche des éléments importants. Je me dis qu'est-ce que je peux apporter aux personnes qui écouteront ce discours. Quelles sont les choses que j'ai envie de leur transmettre? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi que je puisse offrir vis-à-vis de ce sujet-là? Et je vais aller chercher minimum trois points clés, les plus importants, qui vont me permettre vraiment d'aller au bout de ma réflexion. Une fois que j'ai trouvé ces trois points clés, je sais à peu près, voilà. Le but, c'est voilà, c'est d'avoir une destination et de savoir à peu près où je vais. Et après, il y a tout le travail de la mélodie. C'est-à-dire, je vais aller chercher les mots, je vais aller vraiment aller chercher dans la mélodie, chercher les mots les plus beaux que je puisse trouver. J'écris une phrase, je regarde tous les mots dans cette phrase, je me dis, est-ce qu'ils sont tous utiles, ces mots? J'en supprime plein et je modifie les autres. Je veux que les mots, en fait, soient sublimés. Et au moment où je trouve que les mots sont sublimés, qui font sens et qui sont mélodieux et qui dansent ensemble et qui font sens tous ensemble, là, je me dis, ok, je peux valider la phrase et je vais à la suivante. En tout cas, voilà, c'est ma démarche, moi, d'écriture. Mais je pense que vraiment, il doit y avoir enfin, une démarche par personne, quoi.
Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de thème de discours?
Exemple de thème de discours. Alors moi j'avais eu quoi? J'avais eu Le monde est-il un centre commercial géant? Faut-il décrocher la lune? En fait, c'est souvent des questions où on peut dire oui et non. Et il faut défendre une position absolument d'un côté ou d'un autre. Voilà. Moi j'aime bien les sujets en tout cas qui ont une dimension sur lesquels je peux développer une dimension un petit peu spirituelle, un petit peu profonde, un peu ésotérique. Et à la fois, j'aime bien aussi ceux qui sont un peu critiques. Moi, enfin, là où je me sens le plus à l'aise, c'est le moment où il faut observer l'homme et comment il fonctionne aujourd'hui et qu'est-ce qu'il rate comme expérience interne de par son fonctionnement. Moi, ça vraiment, là, ce sont des. Après, des discours, puis il y en a sur tous les thèmes. Je veux dire, voilà. Ça dépend vraiment de qui c'est qui donne les thèmes. Voilà.
Alors, qui justement?
Alors, il y a des concours, il y a des appels à, y a des appels à projets, des appels à candidatures. Beaucoup font des concours d'éloquence. Donc, il y a l'Académie de la langue française, il y a Eloquentia, après, il y a énormément d'associations aussi. Que ce soit des associations municipales ou des voilà des académies. Je sais que là il y a l'Académie des Jeux Floraux qui ont lancé les premières. Je crois que cette année ils ont lancé les premiers concours de slam ou de poésie orale. Sur Internet il y a un site où il y a référencé tous les différents appels à candidature et les sujets peuvent être assez vastes en fait. Généralement c'est les sujets c'est soit une phrase. Soit une question où on peut prendre position, généralement. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai trouvé.
Mais c'est une mode, enfin c'est une mode qui va peut-être se poursuivre, mais c'est assez récent cet engouement.
Alors, j'ai vraiment l'impression là qu'aujourd'hui, il y a une grande, un grand éveil au niveau de l'éloquence. Pour moi, c'est un éveil qui est justifié parce que il y a énormément de choses que l'on apprend à l'école. Qui, à mon sens, ne sont pas prioritaires. On nous demande de nous concentrer, on nous demande d'apprendre des leçons, on nous demande également aussi de préparer des exposés, de passer à l'oral. Avant même de nous apprendre à nous concentrer, qu'est-ce que c'est la concentration? Comment on décortique la concentration? Comment fonctionne l'attention? Comment je fais pour me concentrer? À quel moment j'ai besoin de repos? Comment je gère mon repos, comment je me repose, comment j'apprends, c'est quoi la technique pour apprendre. On n'apprend pas à apprendre et on n'apprend pas non plus à s'exprimer. On n'apprend pas à s'exprimer entre nous, on n'apprend pas à exprimer ses émotions, à dire comment on se sent et on n'apprend pas non plus à prendre la parole devant sa classe, on n'apprend pas à prendre la parole en public, on n'apprend pas à prendre la parole. Auprès de ses pairs et chez les introvertis et notamment bah, chez les élèves que je rencontre notamment au collège, au lycée, je vois énormément de timidité, de gêne d'exister et je vois ça de plus en plus et ça m'attriste et je pense que cet engouement autour de l'éloquence, c'est juste un réveil en fait de l'éducation nationale, des différentes structures hein, qui se disent, mais en fait, c'est une urgence d'apprendre à parler, d'apprendre à s'exprimer. Ça réduit non seulement les violences, mais ça permet également une bonne cohésion dans la classe, ça permet un échange plus fluide et plus sincère entre les personnes, ça permet une vraie harmonie humaine. Et quand je propose des parcours d'éloquence ou que j'en parle à certaines personnes, beaucoup me disent « Ah, mais ce serait bien d'avoir ça aussi au boulot, avec les collègues. Ah ouais, mais moi, j'aimerais bien faire ça. Bah, c'est génial. » Et oui, mais en fait, c'est pas comme, je dirais, un sport ou comme le judo où on pratique juste le judo quand on le veut ou quelques heures par semaine. L'oralité, on parle tout le temps, quoi. Et ce sont des... Voilà, ce sont des... Ce sont pour moi des compétences qui sont essentielles. Et aujourd'hui, cet engouement autour de l'éloquence, pour moi, c'est juste un réveil. Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû avoir lieu bien plus tôt. Et d'ailleurs, quand on regarde quelques siècles en arrière, l'oralité, elle avait une grande place, notamment dans la transmission, notamment dans... quand on regarde la richesse des discours, la richesse du vocabulaire il y a 2 siècles comparé à celui d'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence aujourd'hui de réapprendre à parler. Et je pense que cet engouement pour l'éloquence, il provient de là, quoi.
Mais apprendre à s'exprimer publiquement requiert de savoir écrire au préalable. Toi, en tant que formateur, tu apprends à écrire pour apprendre à dire ensuite. Comment ça se passe ?
Alors, chez certains, il est beaucoup plus compliqué d'écrire que de passer à l'oral. Moi, ma pédagogie, elle consiste à d'abord parler. Parce que le sujet, là, c'est de prendre la parole. Prendre la parole au début, c'est prendre la parole de la manière la plus simple possible parce qu'on a affaire à des personnes qui sont pas à l'aise à l'oral ou qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole. Donc on commence tout simplement par leur laisser annoncer leur prénom. Ça commence de là. Prendre la parole, c'est juste déjà se présenter, dire son prénom. Et puis petit à petit, bah, on réduit les tics de langage. On parle de tout ce qui est voix, respiration, poser sa voix. Projeter sa voix, adresser un regard, savoir se tenir, savoir maîtriser sa gestuelle, maîtriser son adresse. Et petit à petit, une fois qu'on a une certaine aisance à l'oral, etc., là, je commence à introduire voilà, des techniques d'écriture, qui peuvent être des techniques d'écriture de discours. Donc je donne voilà, des techniques qui sont assez utilisées, qui sont assez connues, hein, celles de l'exorde, voilà, une introduction qui arrive, qui accroche l'attention, la narration qui explique le sujet, les 3 points clés, une réfutation si c'est un argumentaire, et une conclusion, une péroraison, qui est la conclusion, qui est l'ultime punchline, hein, comme je leur explique, qui est la partie clé en fait qui va résumer l'ensemble du discours. Et donc voilà, je leur explique voilà comment on écrit un discours, je les aide à ce niveau-là, et puis après je leur explique voilà les différentes formes, le slam, etc., comment ça fonctionne une rime, comment on peut utiliser la rythmique, voilà. Mais pour moi, l'écriture, elle a vraiment une place secondaire, à part si voilà mon but c'est d'intervenir en tant que qu'intervenant en écriture. Dans ce cas-là, je le prends en premier lieu, mais en oralité, la première chose à faire, c'est prendre la parole, pour moi.
Donc, qui dit éloquence, si je reprends tes termes, inclut aussi le slam.
Ah, le slam fait partie d'une des formes d'éloquence. Il faut être sacrément éloquent pour être slameur. C'est à la fois, la différence qu'on va avoir entre la poésie et le slam, c'est que le slam va avoir une vocation un peu moins... on va dire une vocation peut-être un petit peu plus usuelle en termes de langage, c'est-à-dire un langage peut-être un petit peu plus familier, mais tout de même quand même chargé d'une rythmique, chargé d'une intention de jouer avec la mélodie des mots, et c'est une sacrée ingénierie déjà de savoir l'écrire, mais alors d'après de pouvoir discourir, de slammer proprement, c'est... Voilà, c'est pour moi, il y a aussi une dimension musicale aussi qui s'ajoute en plus à l'oralité et au discours, quoi, que des compétences techniques en écriture et des compétences aussi techniques en rythmique et en oralité, quoi, qui sont importantes à mon sens dans le slam, quoi.
Donc oui, tu apprends à ces lycéens à slammer.
Enfin, ça dépend du temps qu'on a, parce que généralement j'ai des parcours qui sont assez courts. Donc sur un parcours de 20 heures, oui, je leur apprends à écrire des petits slams. Sur un parcours de 12 heures, l'important, c'est que je puisse créer une cohésion entre eux, qu'ils puissent avoir les bases de l'expression et qu'ils puissent être à peu près capables de rédiger un discours, de savoir maîtriser leur voix, de savoir maîtriser l'adresse et d'avoir un petit peu plus confiance en eux. Pour moi, c'est voilà, là, on est vraiment sur Souvent, sur l'initiation, le slam, il arrive à partir de 20 heures de formation, à peu près.
Je voulais savoir si le fait d'apprendre à savoir écrire un discours de manière éloquente, toutes les autres matières qu'on enseigne à l'école en bénéficiaient.
Alors, je pense que ce sont des techniques qui peuvent en effet... d'apprendre l'oralité, d'apprendre à prendre la parole et d'apprendre l'éloquence, ça va servir normalement dans toute sa vie. Donc forcément, dans les autres matières, ça va découler certaines, vont découler certaines compétences qui vont nécessiter une certaine oralité à un moment donné. Un exposé d'histoire géo, une présentation à l'oral en anglais. Quand on a un oral et des oraux, on en a dans toutes les matières généralement, à un certain moment dans notre vie. Du moment où on explique à l'élève que le professeur, il a vu une quinzaine d'élèves avant lui qui a bu son café il y a une heure et qu'il en a un petit peu marre d'écouter des élèves, donc que l'élève puisse prendre en considération qu'il a besoin de capter l'attention de son jury, qu'il a besoin d'aller droit à l'essentiel et qu'il a la structure du discours en tête. Je pense qu'en effet, bien sûr, qu'il pourra bénéficier des outils de l'éloquence dans n'importe quelle situation scolaire, mais aussi, je pense, dans sa vie, quoi.
Mais lorsqu'on est amené à faire un exposé, on n'apprend pas forcément par cœur justement le texte qu'on doit présenter à l'oral. Alors que là, semble-t-il, et comment ça se passe en fait en termes de mémorisation du texte écrit sur lequel on va discourir, ou en tout cas on va mettre en voix. Comment ça se passe? Les élèves sont amenés à apprendre par cœur le texte qu'ils ont écrit et ensuite à le verbaliser? Ou bien y a-t-il quelque chose de détaché, un détachement par rapport au texte écrit?
Alors, généralement, après ça va dépendre des élèves. Il y a des fois des élèves où j'ai pas forcément le temps de développer l'écrit avec eux, donc je vais leur demander d'écrire juste les points principaux. Il y en a qui sont à l'aise en improvisation, qui vont savoir un petit peu naviguer entre les points. Il y a certains orateurs aussi qui préfèrent écrire juste des points principaux avec des sous-points et ils vont aller réussir à mettre en forme en improvisation. Mais la majeure partie du temps, on écrit le texte et on va essayer au maximum de l'apprendre par cœur. Souvent, on dit que un texte, un discours est bien préparé quand on ne peut plus le voir. Quand on le déteste de toute notre âme, ce texte, et qu'on en a ras le cul, excusez-moi l'expression, de le répéter, là, il est bien prêt. Là, il est fin prêt. Ça veut dire que voilà, on a tellement mis en voix qu'il va sortir de manière complètement subconsciente.
J'en reviens à ce que tu me disais hier soir, c'est que tu te filmais quand tu mets en voix un texte. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte, la caméra? Qu'est-ce que tu corriges?
Je corrige énormément de choses. Parce que quand on met en voix, on va essayer de mettre certaines intonations, certaines postures corporelles. On va se dire, alors ça, je vais essayer de le mettre comme ça, ça va être sympa et tout, machin. Et puis on s'aperçoit que sur la vidéo, on a juste l'air ridicule et que ça n'a pas du tout apporté à l'oralité, mais que parfois en faire trop ou en faire des caisses va nuire aussi au discours. Donc moi, ça me permet vraiment d'affiner mon intention et d'aller droit vers l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des intonations, il y a des postures gestuelles, des postures verbales qui vont être sympas à adopter si elles sont bien maîtrisées, et d'autres où je vais sentir que c'est un peu exagéré, ou alors que c'est pas assez développé et qu'il faut un petit peu plus l'exagérer. Voilà, moi ça me permet en fait d'ajuster, de me dire, bon voilà, à ce niveau-là, ok, donc là la posture du corps elle est bien, machin. Par contre, bon, au niveau de la voix, ça sert à rien de mettre autant d'intensité ou d'être trop grave comme ça, il faut voilà, revenir sur ça. Voilà, moi ça me permet vraiment d'analyser les différentes parties du discours. C'est-à-dire voilà, au niveau du volume, au niveau de l'intonation, au niveau de la hauteur de voix aussi. Ça, c'est, voilà. Comment j'arrive avec justesse à exprimer ce que je veux exprimer. Et de voir à la caméra, c'est vraiment de regarder d'un œil extérieur ce que ça donne.
Mais tu ne vas pas être forcément amené à modifier ton texte.
Ah, parfois si, si, si. Il y a parfois où je vais répéter une phrase et il y a un truc qui passe pas. Il y a un truc qui passe pas. Je réessaye, ça passe pas. Et alors j'essaye un autre mot. Et alors je modifie. Et puis là, ça fonctionne. Ah, et voilà. Enfin, et après, à force de modifier, voilà, il y a des fois où j'imprime 15 fois ma feuille. Je l'imprime, pour moi c'est terminé, voilà, j'ai ma feuille et tout. Je l'ai répété 10 fois, au bout d'un moment, je dis, ah non, ça je modifie, ça je modifie, ça je modifie, ça c'est trop long, ça c'est pas bon. Et puis je réimprime ma feuille, et puis je refais pareil, et puis je réimprime ma feuille. Donc oui, il y a quand même vachement de travail dans la mise en voie de se dire, ah ouais, non, non, ça me plaît pas. Et puis il y a le sommeil entre dedans. Et le lendemain, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui nous plaisent pas, et puis on fait évoluer le texte comme ça, quoi.
On peut dire qu'il y a un va-et-vient entre l'écrit et l'oral à ce moment-là.
Oui, complètement. Voilà, il y a vraiment un va-et-vient entre l'écrit et l'oral. Et il y a un certain recul aussi qui s'effectue avec le temps. Hein, pareil avec n'importe quel type d'art, hein, genre avec une peinture, avec je sais pas, avec une peinture, avec un graphe, avec une chanson, avec une composition. Le lendemain, on a toujours l'esprit un petit peu plus frais, et on revient dessus et on se dit, ah oui, peut-être que je pourrais ajouter des subtilités. Ou alors on supprime tout. Ça m'est déjà arrivé. Ça me ressemble pas, ça me parle pas, je reçois pas de bonnes émotions quand je dis ce que genre, je déclame ce texte. C'est pas moi, ça ne me plaît pas, je supprime tout, je recommence. Et même parfois, j'ai 2 jours avant de déclamer, ben c'est pas grave, je supprime tout, je recommence parce que je ne ressens rien. Si je ne ressens rien, comment je peux faire pour transmettre l'émotion à d'autres personnes, sachant que je ne ressens rien? Genre, faut être un sacré bon acteur, quoi.
C'est le fait de passer à l'oral qui te permet de te dire oui, là ça passe ou ça passe pas. L'oral, le passage à l'oral est vraiment quelque chose d'incontournable.
En tout cas, oui, si on doit prendre un discours, le passage à l'oral, il est complètement incontournable, quoi. Je veux dire, si je dis mon texte, si je déclame mon texte et que je sens une harmonie en moi et que je sens que ça résonne et que voilà, ça me ressemble, là, d'accord, on est dedans, quoi. Par contre, voilà, il y a plein de choses qui vont pas résonner et on va se dire, bon, ben voilà, là, en effet, l'aller-retour, il est essentiel. Dire, bon, voilà, je l'ai dit à l'oral, ça ne me convient pas, je modifie ça, je modifie ça. Il y a énormément d'allers-retours, hein, entre ce que je dis, ce que j'ai filmé, ce que j'ai observé. Voilà. Il y a énormément d'allers-retours et beaucoup de modifications qui sont effectuées avant de se dire, allez, je commets l'acte de déclamer.
En fait, quelque part, je pensais plutôt slam. J'étais passée
En
déjà
slam,
au
ok.
chapitre suivant. Est-ce que tu penses que justement, il y a aussi ce va-et-vient entre l'écriture d'un slam et la déclamation d'un slam? Est-ce qu'on change aussi des choses à partir du moment où tu les entends, où on les entend, et à ce moment-là, on dit oui, là, ça cloche, oui, là, ça passe pas?
Le slam, c'est encore pire. Le slam, il faut être encore plus exigeant parce que là, on est à fond dans la mélodie. Dans voilà, il faut qu'il y ait un truc là, ta 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 ta. Faut qu'il y ait un truc qui, faut que ça fonctionne. Faut qu'à la fois ce soit beau, que ce soit rythmé, que ce soit juste, que ça tombe au bon moment, qu'il y ait une vraie différence de longueur, parfois de longueur de vers. Enfin, il y a une sacrée liberté quand même en slam. Et à l'oral, il faut que le slam il soit super musical, super mélodieux, et que derrière, à chaque fin de phrase, à chaque fin de punchline, qu'il y ait une sensation d'achever, quoi. On a réussi à terminer cette punchline et que elles envoient vraiment des émotions au public qui soient puissantes. Donc on est obligé de le faire, de le refaire, de le re-refaire parce que c'est musicalement le slam il est super important. Donc c'est vraiment au déterminant près, à la syllabe près, il faut que le texte y fonctionne, quoi.
Thank you. clarinette, ses deux enfants à l'accordéon et à la darbouka. Un tableau ici à l'écoute. Enregistré par Tristan lui-même sur le vieux port, peu avant de me rejoindre et de me déclamer un discours à l'issue de la première partie de notre entretien.
Le monde est-il un centre commercial géant ? Monde moderne aux modes mondains, chez mère nature son mal mené, aux fous malades, aux cœurs meurtris, croient qu'en commerce naîtra leur vie. Sur le sol pavé, se pavane l'homme perdu, dans sa prison médiatique, les yeux publicitaires, fuyant. Un esprit végétatif dans un terreau d'égarement, perçoit l'or noir comme un engrais, sa conscience poussant dans un pot d'échappement. Pour lui, le monde, ce diaporama schizophrène, ce panorama fallacieux d'images hallucinogènes, c'est la réalité. La tête coincée entre deux immeubles, il rame de métro en métro, cherchant sa place en ces métros, il achète tout ce qui l'entoure avec son temps inestimable, il travaille pour des minables dans une routine interminable. Voici fini le temps des rires et des chants. Désenchanté, il déchante. Ses rêves déchus, son âme déçue s'oublie devant Didier Deschamps. Il vit, dominé par sa dopamine, pendu au fil d'actualité, alité comme un fou jaloux de fausses réalités. Chaque notification fait vibrer son pantalon, attrape son tel, ses décathlons, moins 20% sur les ballons. Compulsif, il consommerait n'importe quoi et c'est pourquoi il se consume. Il fume, il boit en boîte de nuit et s'accoutume à son costume. Au bal masqué! Même sans Covid, sa mascarade se perpétue. Il s'entête à incarner son personnage mal revêtu. Sur sa façade figure une fresque d'accoutrement fastueux, une histoire étrangère à la sienne qu'il raconte à ses reflets défectueux. C'est assommé de masse consommée qu'il angoisse à sa maison. Il est épuisé. À trop se lester d'inutile, s'est laissé gésir de côté. Il n'amasse que ce qu'il dépense. Il avance à contresens au rythme de son inconscience, obéit à la démence pour 5 semaines de vacances. C'est le trader aux cheveux gris, grisé par l'ennui, tant il est rongé par l'argent gentil. Il n'est plus à fleur de peau, doit prendre régulièrement ses onéreux médicaments. Il crie dans le vide, car personne n'écoute son cœur. On s'intéresse à ce qu'il rapporte sans prendre compte de sa valeur. Il a perdu sa mère pendant qu'il gagnait de l'argent. Croyant pouvoir se racheter, s'est jeté seul dans le tourment. De crise existentielle à rupture conventionnelle, il plaque son job et son appart, aller découvrir les merveilles. Pour la première fois, il est à l'étranger, sans le fardeau de sa mallette. Son mal-être est rangé dans les tréfonds de son passé. Les bottes aux pieds, sa tente sur le dos, il chemine dans une jungle humide pour la première fois de sa vie et témoin de l'harmonie. Cette chaleur douce, ces ruisseaux, la nature verte et les oiseaux sifflent dans son cœur une symphonie de paix. Le soir, il établit son campement au pied du feu dans un crépitement paisible. Il repense à la vie qu'il a menée, étant un produit au lieu de produire ce qu'il était. À vivre à 1000 à l'heure, sans même voir la vie passer, sans prendre le temps de s'asseoir, voir le soleil se coucher. À 37 ans, il est déjà vieux. Les cheveux gris, les dents jaunies, sa peau flétrie, les yeux meurtris, meurtriers de lui-même au service d'une utopie. De jour en jour, il parcourt le monde en quête de poésie, toutes ses odeurs, ses paysages et ses animaux animés. La vie respire dans son cœur, dans ses couleurs chatoyantes, tout est mouvement, tout est paix, ainsi il cesse de se presser. Il se concentre sur lui-même, partage l'amour autour de soi. Il aide les autres en échange des leçons qu'il apprendra. Il vit en symbiose avec les hommes, la terre, les océans, enfin sorti du néant de l'illusion gênante que ce monde serait un centre commercial géant.
Merci. Alors, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce texte, c'est le passage. On a l'impression que tu es un conteur par moment, et puis un slammer à certains autres moments. Et ces va-et-vient sont vraiment percutants et donnent encore plus d'intérêt au texte. Et puis, il y a une phrase là, il se concentre sur lui-même, partage l'amour autour de soi, il aide les autres en échange des leçons qu'il apprendra. J'ai l'impression que c'est de toi dont tu parles.
Ça, oui, en effet, c'est un peu, comme on dirait en Inde, c'est un peu un mantra, hein, c'est sûr que... L'amour, en effet, c'est la seule chose comme la paix, la bienveillance, c'est fait partie des choses que quand on les partage, on les multiplie. Et en effet, voilà, je crois vraiment en l'amour quand on le met dans son texte, quand on le met dans les actions de tous les jours, quand on le met dans ses petits plats, quand on le met dans n'importe quelle action, il donne du goût à la vie et... en effet, l'échange avec les autres nous apporte des leçons, la vie nous apporte des leçons, et faut savoir les reconnaître et les apprécier. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça.
Merci, on va clore là-dessus. Merci beaucoup. Dans le prochain Scribens O, Scribens A, Tristan Trève nous en dira plus sur ce que représente pour lui le slam entre poésie et rap, ce qui l'anime quand il écrit, la générosité que représente l'acte d'écrire, son amour de la technique et bien d'autres choses encore.